Chapitre 68. Après des jours d'un voyage très pénible, Nietzsche et ses amis atteignirent enfin les pics. Ici, une chiche végétation s'accrochait au sol ocre et les rochers couverts de mousse avaient l'allure caractéristique de la roche volcanique poreuse et friable. Perché sur une butte, Nathan étudiait la carte rudimentaire récupérée à surplomb du monde.
« Par là, presque dans cette direction. »
Personne ne releva le « presque », pourtant des plus inquiétants. Sortant le mouchoir magique de Mia, le vieil homme s'essuya le front, puis il remit son trésor dans sa poche.
« J'espère que tu ne te trompes pas, » dit Nietzsche. « Nous sommes partis depuis trop longtemps, à mon goût. La maîtresse de la vie doit avoir gagné en puissance. »
Au rythme où croissait la forêt primitive, il ne faisait aucun doute que ce fléau était encore plus dangereux que la désolation du buveur de vie. Une fois encore, Nietzsche allait devoir neutraliser un adversaire qui menaçait Richard, l'Empire d'Aran, l'Ancien Monde et le Nouveau. Après avoir avancé dans les montagnes selon les indications de Nathan, le petit groupe atteignit un éperon rocheux qui dominait une vallée encaissée défendue par des murailles et des flèches de pierre, un peu comme un val entouré de glaciers et de falaises, mais en plus grand. Au creux de cette vallée, au sol irrégulièrement couvert de neige, un lac à demi gelé était flanqué de rochers géants et de stalagmites de cendres solidifiées. Nietzsche sut d'instinct qu'ils étaient arrivés à destination. La vallée de Kourotte s'étendait devant eux.
« Nous y voilà, »
murmura-t-elle.
« Regardez !»
s'écria Chardon.
« Vous voyez les ossements là-bas ?»
Nietzsche plissa les yeux et distingua un vaste champ d'eau géant. Malgré la brise qui lui soufflait ses cheveux dans les yeux, Nathan eut un grand sourire.
« Des os de dragon, c'est sûr !»
comme s'il en avait vu toute sa vie. Bannon leva les yeux et sonda le ciel, à croire qu'il craignait de voir arriver un reptile volant.
« Il va falloir descendre !» dit Nietzsche.
Elle aurait bien voulu évaluer les difficultés du chemin, mais Chardon partit à la vitesse d'un bouquetin, sautant de rocher en rocher avec sa grâce habituelle. Quand elle semblait devoir glisser, elle se rétablissait souplement et jetait son dévolu sur un rocher plus stable. Heureuse d'être enfin près du but, Nietzsche se mit en chemin sans tarder. Bannon et Nathan la suivirent. Progressant prudemment, le sorcier s'agaça que son disciple lui propose à tout bout de champ une assistance dont il ne voulait pas. À la lisière de la vallée, entre des blocs de pierre noire, les voyageurs trouvèrent leur premier squelette de dragon. Mais les côtes, au fil du temps, s'étaient recroquevillées comme les pattes d'une araignée morte, et dans le crâne creux, il manquait la plupart des crocs. Nathan approcha et tira quand même sur la côte la plus proche.
« On la prend et on file »
proposa-t-il.
« Il suffira d'en faire un arc !»
Bannon n'en crut pas ses oreilles.
« On ne peut pas partir si vite. Il faut explorer ce site. » Le légendaire cimetière des dragons, tu te rends compte?
Il faut surtout choisir la bonne côte,
modéra Nietzsche.
Je veux éprouver la résistance de celles qui me sembleront appropriées.
Ils avancèrent, étudiant plusieurs squelettes. Nathan s'arrêta près d'une dépouille à laquelle s'accrochaient encore quelques écailles. Nietzsche s'intéressa au crâne, au moins aussi gros qu'un char à bœufs. Sans doute victime de l'âge, les crocs jaunâtres étaient tachés de noir. Mais les côtes, encore en bon état, faisaient deux fois la taille de la magicienne. Les vestiges d'une incroyable puissance dont Nietzsche sentait encore les émanations. Une formidable magie avait habité cette créature, et un arc créé avec un de ses os aurait à coup sûr le pouvoir de neutraliser le sort de Victoria.
« On dirait les restes d'un dragon noir, » dit Nathan.
Chaque écaille encore présente était au moins de la taille de sa main.
« Un grand dragon !» Peut-être un roi parmi les siens.
Nietzsche ne se laissa pas emporter par le lyrisme du sorcier.
C'est possible, mais les côtes sont bien trop longues pour moi. Il faut trouver un plus petit dragon.
Derrière un gros rocher, Bannon découvrit un autre squelette et fit signe à Nathan d'approcher.
Tu vois les légères différences morphologiques, fiston. Là, nous avons affaire à un dragon vert. Tu as remarqué la corne sur son museau. C'est à ça qu'on reconnaît un dragon vert.
Il ne suffit pas de se fier à la couleur des écailles?
Bien vu, fiston, à un détail près. Quand on est assez près pour ça, on a d'autres soucis que le recensement spécifique des espèces. »
Sous un ciel de plus en plus chargé, les quatre compagnons continuèrent leur exploration. Ils virent un nombre incroyable de squelettes, comme si les dragons, à une époque, s'étaient mis à crever plus vite que des mouches.
« Je me demande quand le dernier est arrivé ici, »
marmonna Bannon. Il se pencha sur un crâne plus petit que les autres, peut-être celui d'un jeune dragon venu mourir avec sa mère. Bébé ou non, il restait beaucoup plus grand qu'un cheval de trait. Chardon partit en éclaireuse, comme d'habitude. Bientôt, elle disparut de la vue des trois adultes.
« Magicienne, viens voir !»
appela Nathan.
« Que dis-tu de ce spécimen ? À la forme de son crâne et des crêtes dorsales, je pense qu'il s'agit d'un dragon d'argent. Sur un plan métaphorique, il est parfait pour une arme. »
Nietzsche évalua la longueur des côtes, puis fit mine d'armer un arc.
« Un bon candidat, oui. »
Bannon approcha, solide au poing.
« Si c'est ton choix, magicienne, je peux dégager l'os. À surplomb du monde, on t'en fera un arc. »
À cet instant, Chardon cria de terreur. Nietzsche partit au pas de course. Slalomant entre les rochers et les ossements, elle arriva sur une butte d'où elle put voir ce qui se passait. Chardon courait, terrifié, et une énorme silhouette la recouvrait de son ombre. Des ailes parcheminées apparurent et un long coup passa entre deux rochers. Puis la bête se redressa, faisant s'écrouler plusieurs piles d'ossements. Nietzsche reconnut immédiatement un reptile volant. En d'autres termes, un dragon. Mais avec de la peau pendant sous la gueule et de la bave au coin de la gueule. Une bonne partie des écailles couleur étain manquait, dévoilant de grands pans d'une peau ridée. Avec un bruit de soufflet de forge, le dragon battit des ailes et parvint à ne pas s'écrouler. Dans ses yeux jaunes, Nietzsche vit briller des étincelles. S'il était incroyablement vieux, ce reptile volant n'en restait pas moins dangereux. Et il avançait vers Chardon, qui n'avait aucun abri en vue. Contre toute attente, le dragon parla d'une voix qui fit trembler les rochers.
« Je me nomme Brom, »
tonna le reptile géant en battant des ailes.
« Le dernier est le gardien. »
Le monstre inspira à fond.
« Et vous, vous êtes des intrus !»